Je passe tout de suite la parole à Annie Storin-Lamar, qui est historienne et qui va nous faire la conférence inaugurale. Merci à vous, Annie.
Merci beaucoup. Alors, merci à vous, Isabelle et Jérémy. Merci à la Bibliothèque publique d'information et au Centre Georges Pompidou de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je vous présente cette toile en introduction qui va nous amener à notre sujet. Il s'agit d'une peinture du peintre Gerfex, Henri Gerfex, qui naît sous le Second Empire en 1852. Et cette toile, Rolla, a été retirée du salon parce qu'elle était immorale. Alors l'immoralité, c'est bien sûr l'histoire donc, d'une jeune prostituée, Manon, qui coûte trop cher à son amant, qui finit par se suicider. Et l'écrivain Henri Wismans explique que ce qui avait attiré l'attention des censeurs, c'était qu'elle soit complètement nue sur son lit. Voilà. Alors, cette peinture que... Pour la petite histoire et quand même la grande histoire, je dois dire que cette toile a été saisie par les Allemands sous l'occupation et qu'elle fut rendue à la France, dans le plus grand désordre, l'œuvre de Gerfex, après donc la libération. Donc c'est une toile à la fois censurée et qui est porteur aussi de l'histoire de la France. J'en arrive, si vous voulez, au titre de ma conférence que j'aimerais expliciter. Donc je vous le donne. Borderline, le titre de la conférence c'est Pornographie et prostitution. Donc, le défi républicain. Le domaine de la prostitution et de la pornographie a elle-même une histoire. Et on ne choisit pas ce domaine sans qu'il soit greffé, au fond, à sa propre histoire, à sa mémoire. Pour nous, dans l'après-68, notre génération était particulièrement intéressée par des objets très illégitimes, comme la délinquance, le sexe, la marginalité. Bien entendu, on suivait les conférences de Michel Foucault qui nous enthousiasmaient parce que Foucault nous renvoyait finalement à l'analyse, à la philosophie des discours sur le pouvoir. Il disait « Le sexe de la bourgeoisie, ce fut son sexe ». Nous, les filles de Michel Perrault, à l'Université de Paris 7, on s'était engagées justement dans ces domaines de la marginalité. J'ai choisi de travailler sur la production des écrits pornographiques sous la Troisième République parce que ce domaine traitait du permis et du défendu, du légitime et de l'illégitime, et que ça renvoyait au champ des croisades morales au XIXe siècle, sous la Troisième République, donc cette République que nous appelons les 19e fin de siècle. Cette époque était particulièrement terrifiante. Elle portait sur elle l'idée d'une dégénérescence, d'une fin de civilisation. Tout était fléau. La Troisième République est en effet l'âge d'or des figures du risque. Les groupes anarchistes, les groupes révolutionnaires, autre péril mis en scène, les foules et les masses folles qui risquaient d'être gangrenées par le péril de la prostitution et de la pornographie. La prostitution, quant à elle, c'est, n'oublions pas, l'âge d'or des bordels, des filles, les encartées, les filles légitimes, qui fréquentaient les maisons, les clandestines. Ce n'est pas de cette histoire dont je vais vous parler, c'est-à-dire sur ce plan qui serait grand un, la prostitution, et ensuite les écrits pornographiques. Et je vais vous expliquer un peu ma démarche et l'angle d'attaque sous laquelle je compte vous exposer ce domaine si provocateur pour les élites morales de la République. En effet, Si on suit ce qu'on appelle chez nous, les historiens, les sources, ce n'est pas du tout dans deux domaines séparés qui fonctionneraient, si vous voulez, de façon autonome, la prostitution et les écrits obscènes. Si on suit le discours des juristes de l'époque, si on suit les discours qui sont tenus dans les thèses de droit de l'époque faites par les jeunes étudiants, ces thèses, cette production juridique considérable montre ceci. Ils sont d'abord tout à fait influencés par le fait divers de l'époque. Ils décrivent une société qui tombe véritablement dans la folie. Mais la caractéristique de leur production, c'est qu'ils voient ces figures du mal et du malheur comme profondément imbriquées. Je donne un exemple. La fille séduite dans l'immeuble haussmannien du bourgeois tombe enceinte. Elle se fait alors renvoyer par sa patronne sur le trottoir. Elle tombe en prostitution et risque donc de donner un avenir très incertain à son enfant qui risque lui-même de tomber dans la criminalité et la délinquance. Donc, c'est de cet emboîtement que finalement, mis bout à bout, traité comme un fait total, qu'il est intéressant d'interroger. Ce qui caractérise, ce qui distingue le fait divers de la production juridique, c'est qu'il y a une sorte de passage à l'acte. Et ce passage à l'acte, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la production d'un discours pour aller finalement à l'histoire politique de la Troisième République. C'est ainsi que j'ai rencontré un des acteurs importants de cette campagne contre la pornographie qui m'a bien surpris. Je le pensais, si vous voulez, je l'imaginais dans son discours traquant les buées obscènes, au fond une sorte de fou, et en approfondissant mes recherches, j'ai découvert bien autre chose. René Béranger, qui naît donc en 1830 et meurt en 1915, fait une grande traversée du XIXe siècle. C'est un homme qui s'engage pendant la guerre de 70, il est patriote, il est croyant, c'est un catholique libéral qui pense que la séparation de l'Église et de l'État est tout à fait nécessaire et chose très, très importante et qui est marginal par rapport au catholicisme de l'époque, et notamment la Bonne Presse, la Croix, le journal assomptionniste, il est dreyfusard et il traîne la ligue du moment de Rumont, la ligue antisémitique, devant la haute cour de justice au Sénat. Béranger est un juriste, il est avocat de formation et, si vous voulez, son opposition doctrinale, il l'a fait par rapport à l'école de l'anthropologie criminelle qui voyait, si vous voulez, dans les figures du mal et du malheur, en particulier la prostituée et le criminel, un criminel né, une prostituée née. Cette production était portée par un médecin criminaliste, Cesare Lombroso, de l'école qui a fondé l'école de criminologie italienne et qui, dans toute l'Europe, diffusait un discours scientiste affirmant que ces individus tout à fait dégénérés portaient des stigmates physiques. Ainsi, Lombroso, digne descendant, si vous voulez, des pré-hygiénistes du début du XIXe siècle comme parent du Châtelet, expliquait ce parent du Châtelet, médecin hygiéniste du début du XIXe siècle, disait que la prostituée exerçait une fonction excrémentielle et que c'était finalement l'égout séminal. Lombroso, lui, décrivait une prostituée à la voix rauque, le teint foncé, l'iris brun, et pour lui, c'était tout à fait, cette noirceur était signe de bestialité et d'horreur. Béranger est juriste et il a le sentiment que si l'école pénale française va dans le chemin de l'anthropologie criminelle, quel chemin alors pour le droit ? Comment faire la réforme ? Si tout se fait de façon héréditaire, quel futur ? Comment donner, si vous voulez, aux figures du mal et du malheur, l'accès à la modernité démocratique ? C'est de ce combat, finalement, entre ce monde médical qui se présentait comme garant d'un discours de vérité avec la culture scientiste et le monde de la loi, mais qui est à faire. Tout est à faire, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est-à-dire que finalement, ces lois qui font partie de notre vie, la loi de recherche paternité, la déchéance paternelle, les lois de criminalité, il ne faut pas oublier que René Béranger, surnommé « Père la pudeur » par les étudiants au moment du bal des Quasars en 1832 au bal Montmartre, ce Père la pudeur a perdu véritablement la maîtrise de l'image médiatique de son image et qu'on a oublié que cet homme a été le père de la réforme pénitentiaire française et en particulier de la loi de sursis et de libération conditionnelle qui le fait connaître dans toute l'Europe en 1891. Alors, par rapport au domaine justement de ces grandes figures qu'incarne le mal social qui est la figure de la prostituée et de l'écrit pornographique, je me suis demandé comment ces hommes ont-ils fait pour mener, si vous voulez, ce passage, cet exutoire au passage à la loi en contrant l'école d'anthropologie criminelle qui finalement était constitutive de façon dans l'identité, dans la prise en compte de l'identité des hommes, des femmes et des enfants, de caractéristiques physiques. C'est cela finalement qui m'a intéressée dans cette histoire. Alors, je vous dirais, qu'est-ce que l'écrit obscène pour commencer ? Eh bien, l'écrit obscène n'est jamais défini dans la littérature juridique de l'époque. L'article 28 de la législation de 1881 le définit simplement comme une atteinte à la morale publique. C'est un délit d'outrage aux bonnes mœurs. Par contre, les ligues de moralité voient dans ce délit ce qui ramène à la chair, au désir, à ce qu'ils appellent la bête. En fait, j'aurais pu aussi appeler mon colloque borderline si ça n'avait pas été si j'aurais fait péché d'anachronisme par rapport à ma période qui parlait plutôt d'une époque fin de siècle décadente. Et le péril de la pornographie, dans l'esprit positiviste du temps, il faut le voir à travers, comme un marqueur anxiogène des périls du temps. L'historien peut en ce moment-là prendre son objet d'étude, comme une caméra, ça tombe bien parce que le cinéma est ma passion, voilà, ça me rappelle. Et il arrive, et l'écrit pornographique, ce n'est pas ce qui est défini, c'est ce qui est produit. Ce qui est produit, c'est quoi ? Ce qui est produit, c'est une ville qui maintenant est éclairée violemment par le vice et tout est illuminé. C'est une ville haussmannienne où la fée électricité fait sortir au grand jour le vice. C'est une histoire donc de la ville, c'est une histoire des élites politiques de la Troisième République qui font un usage de la pornographie selon le public auquel on s'adresse. C'est ainsi que si un ouvrier va au Louvre, voit une statue de nu, à ce moment-là, comme c'est un homme qui certes sait lire par l'école de Jules Ferry, mais il n'a pas les codes esthétiques de la bourgeoisie. Par conséquent, il reste un barbare. Et donc, sa raison, d'une certaine façon, risque de vaciller et lui voit cet objet culturel comme un objet pornographique. Donc ce rapport entre masse et élite, ces masses, ces foules, mises en scène par le sociologue de l'époque, Lebon. Le péril pornographique a interpellé, bien entendu, le mouvement féministe naissant de la Troisième République. Les protestantes ont milité au relèvement social. Le mouvement philanthropique juif, en particulier les femmes, se sont préoccupées du sort des jeunes étrangères israélites qui arrivaient de l'Europe centrale et orientale, qui fuyaient ce monde, qui fuyaient les pogroms de l'Empire tsariste. Et comme finalement la prostituée, c'est aussi le visage de l'étrangère, eh bien, elles se sont préoccupées, ces femmes, au sein d'œuvres philanthropiques, de penser au relèvement pour éviter que ces femmes qu'on risquait d'accuser de tomber dans la prostitution, n'oublions pas toujours ce moment Drummond qui fait donc de la figure du juif quelque chose de l'ordre aussi de la monstruosité. Donc on regardait du côté de ces jeunes filles qui arrivaient. Les élites catholiques, elles, se mobilisent parce que au moment de la séparation donc de l'Église et de l'État, on craignait que l'Église ne fasse du prêtre dans le discours d'une figure lubrique et particulièrement qui risquait de déconsidérer l'Église catholique. C'est toute cette histoire finalement qui forme une seule et même histoire, c'est-à-dire une histoire anxiogène, positiviste, où la pornographie se traduit en fait. Alors, c'est quoi ce produit qui n'est pas défini, ce produit pornographique ? Je vous emmène dans une très très brève incursion à l'enfer de la Bibliothèque nationale, composée de 732 livres. Alors, hors de question que je vous parle de ces 732 livres, simplement. Il faut savoir que ce sont des livres majoritairement écrits par des hommes, et que ce qui est intéressant, c'est de voir que ces livres, d'une certaine façon, représentent une configuration historique des figures du désir. Alors on voit effectivement les libertines du 18e, les héroïnes romantiques du début du 19e, et puis bien entendu les prostituées, en particulier du Second Empire, des bordels du Second Empire. C'est Laurette, c'est Grisette, parce qu'elle portait la blouse blanche. Toutes sont typées, ces prostituées. Et on voit que le discours anthropologique qui fixait l'identité physique de la prostituée se retrouve de part et d'autre du domaine licite et illicite. La prostituée juive, naturellement, est une des spécialités du bordel, et la production romanesque à l'époque insistait beaucoup sur ses caractéristiques physiques. Le brun, le teint plâtré, les lèvres très rouges qui appelaient le désir. D'une certaine façon, cette belle juive était présentée comme un monstre, il faut bien le dire. Bon. On arrive ensuite aux femmes fatales de la fin du 19e siècle qui, elles, à l'inverse des femmes du 18e qui portent un prénom, un nom, Thérèse Philosophe, Amélie de Saint-Phar, à la fin du 19e, les femmes perdent leur nom. Ce ne sont plus que des corps-machines ou des machines-corps. Leur corps éclate. On ne voit plus que leurs organes génitaux et leurs seins. Si on travaille de façon décloisonnée, on est très vite ramené, si vous voulez, à ce monde de la colonisation, qui, elle aussi, voyait les Indochinoises comme des femmes vicieuses et particulièrement averties du vice. La femme noire, réduite uniquement à sa croupe et à son sexe, qui perd son corps, qui perd son visage, elle a juste des organes. Et de toute façon, il est inutile de parler de son visage, puisque c'est un monstre. Et ces figures, m'ont émotionnellement, je dois le dire, assez bouleversée, hein, On voit que les images mondes se décloisonnent. N'oublions pas que la photographie, à l'époque, diffuse cet imaginaire exotique, qui est d'ailleurs fabriqué par les médecins militaires de l'époque, des officiers. Cette femme, donc, aussi bien la femme fatale du 19e siècle que la femme noire, cette idole noire, cette femme de bronze, l'indo-chinoise, montre que, si vous voulez, tout un courant de pensée naturaliste, mais tiré du côté de la dégénérescence, donne les grandes idées de ce 19e siècle, l'essai des races de Gobineau, l'esthétique de Camper raciale sur la statue grecque. Il a fallu attendre bien longtemps avant que l'art nègre de Picasso trouve de la beauté à ce monde que l'on voyait dans la noirceur, parce que le diable est quelque part noir. Tout ceci, la violence de ces textes m'a amené à faire, je dois dire, un effort assez important pour aller dans la production des entrepreneurs de loi de la République. Comment vont-ils faire pour contrer l'anthropologie criminelle? Comment vont-ils bâtir leurs lois? Encore une fois, ce n'était pas évident de les faire. Elles n'existaient pas, ces lois. Il fallait les faire. Elles n'existaient pas. J'ai cherché à ce moment-là, du côté donc de René Béranger, des siens, Théophile Roussel, je saute les noms parce qu'on ne les retiendra pas forcément, pour bâtir des lois, arriver finalement à cet objectif qui est que cette figure de la monstruosité qu'elle soit dessaisie, ces figures du mal et du malheur de la monstruosité, il faut une stratégie politique. Cette stratégie politique, ce sera le rassemblement des élites morales de la République, qu'elles soient religieuses, protestantes ou laïques. Alors, Béranger a par exemple travaillé avec Camille Ferdinand Dreyfus, qui était issue d'une vieille famille juive bordelaise, avec des protestants. Il fallait se dégager de l'idée confessionnelle qui enfermait chaque catégorie dans une identité religieuse pour fabriquer, indépendamment de l'univers religieux, les lois de la société civile républicaine. Stratégie, c'est le consensus. Il faut un laboratoire savant pour penser la philosophie pénale de la République. Une loi ne marche pas sans une philosophie politique. Cette philosophie politique s'est élaborée à la Société Générale des Prisons, qui est fondée en 1877 et où se réunissaient 1200 professeurs, juristes, pénalistes, civilistes, comparatistes. Objectif ? Défaire le code civil, ou du moins le décorseter, le code civil de 1804. Les civilistes vont s'y attaquer. Pénalistes, il fallait trouver des héritages, pas de loi sans référence aux grandes figures de la pénalité. Et cet héritage, ils vont le prendre où ? Droit romain. Le droit romain assure l'ordre public. Ensuite, christianisme. La grande figure qui est invoquée, c'est saint Thomas d'Aquin, l'angélique docteur qui tend la main secourable et surtout qui, au nom de la raison, va finalement se battre contre les superstitions. C'est une figure qui est revendiquée. Droit romain, christianisme. Ensuite, évidemment, les Lumières. Et là, la grande figure, c'est Beccaria. Les délits et les peines. Et là, si vous voulez, ce Beccaria est opposé à Duchâtelet, qui parlait encore une fois des goûts excrémentiels, à propos, d'ailleurs lui-même, Duchâtelet avait écrit un livre retentissant sur les égouts de Paris. Enfin, la philosophie solidariste de l'époque, de Léon Bourgeois, donc qui fut ministre, prix Nobel de la paix en 1920, et qui imaginait une philosophie où chaque figure du mal est interdépendante et dépendante de l'autre. Par conséquent, il faut couper carrément la chaîne du mal. Muni de cette philosophie qui est répandue, qui se répand à travers les congrès internationaux contre la pornographie, mais également une science nouvelle née, c'est le droit pénal comparé, qui naît dont les théoriciens pensent la philosophie à la société générale des prisons. Il s'agit par exemple du grand juriste, je ne vous citerai que lui, qui s'appelle Raymond Saleil et qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « L'individualisation de la peine ». Et moi, ce qui m'a plu, qui m'a intéressé dans ce livre, c'est comment il voit le dissemblable, c'est-à-dire la prostituée, le criminel, comme une figure qui est aussi dans le domaine de ce qu'on est nous, de ce qu'on est nous. Voilà, c'est ça au fond qu'il dit Raymond Saleil. Eh bien, ces hommes-là, avec des échecs, des succès, la loi de sursis passe, les lois de censure passent, finalement vont arriver à cet arrachement des figures de la monstruosité dans le droit. J'en arrive à ma conclusion. Le combat contre l'écrit pornographique, la condition de la prostituée, ne s'inscrit pas dans une simple régénération du produit de régénération morale et philanthropique qui a été pratiquée tout au long du XIXe siècle. Elle révèle que la question du mal et du malheur n'est pas un phénomène marginal, mais qu'il s'agit de s'affronter aux défis modernes d'une nouvelle civilisation des mœurs à la mesure de l'ère industrielle. En pointant les horreurs et les déficiences sociales qui s'enchevêtrent dans une spirale sans fin, les entrepreneurs de loi s'efforcent de mener le combat sur toute la ligne. Dans cet ébranlement, l'horreur qui dit le vrai devient la matière même des lois. Le rôle de la loi ne peut donc s'arrêter à punir une culpabilité ponctuelle. Elle devra au contraire s'attacher à rompre l'enchaînement fatal et construire un cercle vertueux. La prostituée peut devenir mère. Cette mère peut sauver son enfant et se sauver elle-même. Et ce dernier sauvera la République. Ce récit du mal et du malheur ne dévoile pas seulement l'esprit tragique fin de siècle, mais une fiction juridique offrant une perspective bien plus large. Le changement opposé au déterminisme, où les figures ancestrales du mal et du malheur cèdent désormais la place à l'homo juridicule du droit républicain. J'ai le sentiment que cette volonté d'effacer la figure de la monstruosité morale et physique reste toujours un combat.
Donc, merci. Nous appelons donc les intervenants de la table ronde suivante. À moins que vous ayez quelques courtes questions pour Anis Thora-Lamar. Une.
Est-ce que ces juristes de la fin du siècle sont, je pense, d'un point de vue générationnel, pas très différents de ceux du début du XXe siècle qui ont cru et se sont acharnés à la Société des Nations, au mythe de la traite des Blanches? Et est-ce que dans leur tentative de défaire la figure du monstre attaché aux prostituées, ils ne l'auraient pas fait glisser vers les entrepreneurs de traite même s'ils se sont fait beaucoup d'idées sur, pas tout à fait juste, sur l'existence de ces soi-disant mafias juives, entre autres.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, si vous voulez, il y a eu de grandes campagnes, de grandes campagnes contre la traite des Blanches en 1920. Il y a aussi en 1908, il y a eu un grand congrès contre la traite des Blanches. Alors, vous avez raison, dans le sens que la figure du juif était une figure protéiforme. D'une part, elle symbolisait celui qui opérait la traite des blanches, et d'autre part, du côté de la prostituée, on avait la spécialité de la prostituée juive. Alors, évidemment, il n'y a pas comme ça, dans ce monde juridique, si vous voulez, une homogénéité. Mais j'ai dégagé, moi, l'itinéraire des hommes de la Société générale des prisons. Et le grand combat, je le rappelle, qui animait ces hommes, c'était le combat contre le déterminisme. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, étaient des catholiques modernistes, comme on les appelait, c'est-à-dire que certains d'entre eux, je pense à un sociologue qui s'appelait Paul Bureau, s'est fait d'ailleurs excommunier par l'Église parce que il voulait faire du consensus, encore une fois, avec les élites morales de la République, vous voyez, entre eux. Hein, et le religieux n'était pas rejeté en bloc. Voilà. Il y avait aussi un combat à mener contre une orthodoxie religieuse, mais contre également une orthodoxie au niveau du droit civil qui était prisonnier du Code civil de 1804. Rappelons qu'à l'époque, le Code civil allemand se bâtissait et qu'on regardait, j'ai bien entendu, pour le temps qui m'était accordé, ignorer la dimension internationale, mais elle est extrêmement importante. La dimension européenne est extrêmement importante. Les gens regardent du côté de l'Allemagne, et en particulier du Code civil de 1904. Il se fait là-bas. On dit qu'on a un siècle de retard sur l'Allemagne.